les enfants. Voilà, les enfants pouvaient rejoindre les classes à côté.
Bien, Dieu, lui, n'oublie pas les enfants, donc tout va bien. On va parler un peu de voyage ce matin. Et je suppose qu'il y en a parmi nous, d'ailleurs, qui doivent être en voyage, je suppose. Je pense qu'il y a des visiteurs. Moi, j'en vois. En tout cas, je vois des gens que je ne connais pas. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui aimeraient simplement nous saluer, se présenter? Oui, au fond. D'accord. Bienvenue Michael. Très bien. Eh bien, bon repos parmi nous. Monsieur? Oui. 2 semaines encore. Très bien. De la Hollande. Ok. Vous parlez anglais surtout? Français aussi un peu? Un petit peu? Bon. Voilà, donc vous savez qui saluer à la fin. Oui. D'accord. Bon, vous êtes en famille, quoi. Vous êtes en famille parmi nous. Bienvenue. Bienvenue à vous. D'autres personnes? Oui. D'accord, très bien. Très bien. Eh bien, bienvenue, profitez bien de la région également, et puis de la communion fraternelle. Vous êtes tous et toutes les bienvenus parmi nous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on n'aurait pas vues, qui veulent se manifester? Oui. D'accord. Thank you. J'ai compris un mot sur deux. Mais on peut aller parler avec eux en anglais, visiblement. S'il y a des anglophones, n'hésitez pas à aller les saluer à la fin du culte. Très bien. Je vais reposer la question parce qu'à chaque fois que je la pose, il y a une main nouvelle qui se lève. Ah, voilà. OK. OK. You're very welcome. Ouais, c'est tout ce que je peux faire en anglais. Bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, donc il y a des gens qui sont de chez nous qui sont partis, des gens d'ailleurs qui sont là. En tout cas, on est en famille, tous ensemble, entre frères et sœurs. Et on va parler un peu de voyage ce matin, puisque le personnage dont je vais vous parler voyage. Et il nous apparaît à la traîne et attire assez peu notre attention en général parce qu'il vit un peu dans l'ombre d'un plus grand que lui. Et pourtant, ce qu'on peut observer de cet homme, car c'est un homme, de ses choix, de son parcours, est de grand intérêt parce que son cheminement, j'ai envie de dire, est un cas d'école. Son cheminement spirituel est un cas d'école. Il ressemble beaucoup, je trouve, au cheminement de beaucoup d'entre nous. Et donc, il y a de belles leçons à tirer de sa vie et je vais vous en proposer 3. Mais avant, on va prier et puis on ira ouvrir nos Bibles pour découvrir de qui il s'agit. Seigneur, nous te rendons grâce à nouveau pour ta parole qui est lumière et vie, Seigneur, qui n'est pas une lettre morte, mais qui a été inspirée par un esprit vivifiant et qui a cette capacité de nous donner la vie à nous aussi. Seigneur, c'est cette vie-là que nous voulons recevoir ce matin. Ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas seulement quelque chose qui vient nourrir notre intellect, c'est quelque chose qui vient nous nourrir tout entier et nous mettre en mouvement à la suite de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que pour ça, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton Esprit Saint, Seigneur, qu'il nous ouvre les Écritures, que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire, à nous collectivement comme Église, mais aussi à chacun de nous personnellement, dans les temps que nous sommes en train de vivre, dans nos vies. Toi, tu nous connais. Tu connais chacun d'entre nous, tu connais nos besoins. Tu connais même mieux que nous nos besoins. Alors nous te prions, Seigneur, de les combler ce matin et de venir nous interpeller là où nous avons besoin d'être interpellés. Au nom de Jésus. Amen. Alors on va ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. Genèse, chapitre 12. C'est facile, c'est le premier livre de la Bible, vous ne pouvez pas le louper. Chapitre 12, et je vais lire les versets 1 à 4. Pour l'instant. Dans ce chapitre, on lit ceci. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, pour l'instant. Le personnage central de ce texte, évidemment, c'est Abraham. Mais une lecture attentive nous permet de voir qu'il y a là, dans son sillage, un personnage qui prend, l'air de rien, la décision de sa vie. Il s'agit de Lot, son neveu. Lot, ici, décide de suivre son oncle. Et par ce simple geste, il nous offre déjà une première leçon. Cette première leçon, c'est que la stabilité n'est pas toujours où on croit qu'elle se trouve. C'est une décision étonnante, en fait, que celle de Lot. Abraham, bon, il a reçu un appel de Dieu, il fait ce que Dieu lui dit, tout va bien. Mais Lot, en partant à la suite de son oncle, Lot s'engage dans une vie nomade, dans une vie qui est faite d'incertitudes. Il s'apprête à suivre quelqu'un qui ne sait même pas où il va, parce qu'Abraham ne sait pas où il va quand il part. Et Lot, pour une raison ou pour une autre, décide de lui emboîter le pas. Comme son oncle, Lot a grandi dans une famille idolâtre. Il trouvait sa sécurité dans des idoles de pierre et de bois faites par les mains des hommes. Alors tout ça nous paraît un peu éloigné, presque folklorique, en tout cas assez exotique. Mais évidemment, vous le savez, les lieux d'idolâtrie sont nombreux. Par exemple, et comme beaucoup d'entre nous, très certainement, il trouvait aussi sa sécurité dans cette terre qu'il s'apprêtait à quitter. Il la connaissait comme sa poche, cette terre. Il trouvait sa sécurité très probablement dans sa culture. On est à l'aise, on connaît les codes, on sait comment ça fonctionne. Il trouvait probablement sa sécurité dans les croyances de ses ancêtres. On a toujours cru dans ces dieux-là. Il trouvait sa sécurité sûrement dans les liens qu'il avait tissés avec tout un tas de gens, des amis, de la famille. Bref, il était là-bas chez lui, il sait comment ça fonctionne, il connaît tout cela. Lot n'avait plus ni père ni grand-père à ce stade-là, mais à 30 ans passés, il avait tout de même là des amis, des habitudes, des lieux qu'il connaissait bien, des gens qu'il aimait. Et suivre son oncle, ce n'était pas une petite chose. C'était laisser tout ça derrière lui. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de fax, on ne pouvait pas garder le contact comme ça. C'était une vraie rupture. Et tout ça pourquoi ? Pour suivre quelqu'un qui ne savait même pas où il allait, parce qu'un Dieu connu de lui seul le lui avait demandé. Parce que c'est ça, Abraham. À ce stade-là, Dieu lui a parlé à lui, mais il est le seul à connaître ce Dieu. Et paradoxalement, c'est finalement en mettant le pied sur le terrain mouvant de ce nomadisme-là que Lot s'est trouvé en contact avec la stabilité la plus ferme, la plus inébranlable et inaltérable, celle du rocher du Dieu vivant. Parce qu'il y a des sécurités dans nos vies qui ne sont pas des sécurités. Il y a des sécurités dans nos vies qui sont des peurs. Nous sommes attachés à certaines choses simplement parce que nous avons peur peur de ce qui pourrait arriver, peur de l'inconnu, peur d'être déstabilisé, des peurs qui finalement nous paralysent et nous empêchent de vivre. Dans mon propre passé, j'ai eu des peurs telles que le simple fait de quitter mon propre appartement était une épreuve. Or, la vie chrétienne est une expérience de nomadisme. Je crois fondamentalement que c'est une expérience de nomadisme. Elle demande toujours, à un moment ou à un autre, et parfois plusieurs fois dans une vie, de quitter ce que nous connaissons pour nous mettre en marche à la suite du Christ, parce qu'il nous appelle. Et il nous dit à nous aussi, tu quitteras ton père et ta mère. Il le dit aussi à ses disciples quand ils pêchent avec leur père et qu'ils quittent tout. Ils laissent là leur filet, nous dit l'Évangile. Et ils ne laissent pas que leur filet, ils laissent aussi leur père qui était là à pêcher avec eux. Et ils partent, ils suivent le Christ. Et même si nous avons quelque idée sur la question, au moins on sait à peu près qui on suit, mais au fond, on ne sait pas vraiment où nous allons quand nous partons. C'est comme ça qu'un jour, Dieu m'a fait quitter non seulement mon appartement, mais même mon pays pour aller dans un autre pays, là-bas en Espagne, dont je ne connaissais même pas la langue. Des expériences comme ça, je pense qu'on en a tous, ou en tout cas tous, à un moment donné, on a été appelés à cela, peut-être qu'on a osé, peut-être pas. Mais dans cette vie où tout peut basculer d'un jour à l'autre, il ne fait pas de doute qu'il vaut mieux suivre ce vieux fou nomade d'Abraham que de rester coincé sur la terre de nos ancêtres. Parce que Abraham, tout comme Jésus-Christ évidemment, assume l'instabilité de la vie et il s'appuie ailleurs. Il ne manque pas de sécurité, mais sa sécurité, il ne la trouve pas dans les biens matériels, dans les amitiés, dans la famille, dans, je sais pas, la maison, etc. Il ne la trouve pas finalement dans des choses de ce monde que nous savons périssables parce que tout peut changer, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Lui, il la trouve dans la parole du Dieu vivant qui l'appelle et qui l'envoie. Et au fond, ce qui est vraiment important au départ, c'est pas tellement où nous allons, mais bien qui nous appelle et qui nous envoie. Il ne faut pas partir de soi-même sur un coup de tête, il ne faut pas partir sur une lubie, il faut partir sur la base d'un appel du Seigneur. Mais si Dieu appelle, alors vous êtes sur le terrain ferme de la parole de Dieu, une parole qu'il a placée dans nos cœurs et qui nous met toujours en mouvement, qui nous met toujours en mouvement. Et c'est ce qui nous amène tranquillement à une deuxième leçon de la part de Lot, qui est la responsabilité du choix. Parce qu'il y a évidemment une question de discernement dans ce texte. On peut imaginer que Lot s'est quand même un peu questionné. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Abraham s'en va, mais voilà, moi, après tout, je peux rester là. Qu'est-ce que je fais? Abraham peut-être s'est questionné aussi, d'ailleurs. Est-ce que je l'emmène? Ou est-ce que ça va être un boulet qui va ralentir ma marche? Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il a fallu trancher. Lot a décidé, à un moment donné, il a tranché, il a décidé de se faire le compagnon d'Abraham dans ce drôle de voyage. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que la liberté, c'est de laisser toutes les options ouvertes. À partir du moment où on choisit, en fait, c'est un oui quelque part et puis c'est un non pour tout le reste. Et donc, il y a des gens qui restent coincés là à la croisée des chemins parce qu'ils pensent que c'est ça la liberté, continuer d'avoir le choix continuellement. Toutes les options sont ouvertes, c'est vrai, mais du coup, ils n'en arpentent aucune et finalement, ils passent à côté de leur vie. Dieu nous demande de discerner et de nous engager. Et je dirais même que j'ai l'impression que plus le temps passe, plus on vieillit, plus on s'en rend compte, plus on s'en rend compte. La liberté, ça n'est pas d'avoir toutes les options ouvertes, la liberté, c'est bien de choisir et d'avancer sur un chemin. Et donc, Lot a choisi. Il l'a choisi, j'imagine, devant Dieu. En tout cas, le Seigneur l'a bien inspiré. Et dans les années qui ont suivi, il a donc marché avec son oncle. Ça s'est révélé un excellent choix, a priori. En tout cas, il a vu comment son oncle Abraham adorait Dieu et lui obéissait. Il a été témoin de ça. Il a vu Abraham édifier des autels pour honorer le Seigneur et pour lui rendre un culte. Il a vu Dieu agir quand le pharaon a pris la femme d'Abraham dans son harem. Si vous voulez lire toutes ces histoires, vous les trouvez en Genèse 12. Lot a vu tout cela, il a été témoin de tout cela, il a certainement appris des choses de tout cela, il a découvert en tout cas le Dieu de son oncle à travers tout cela. C'est difficile de dire précisément ce qu'il en a retenu, mais il y a une chose qu'on sait de source sûre, puisque c'est l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, qui nous le dit, c'est qu'il était quelqu'un de juste devant Dieu. C'est Pierre qui le dit. Lot était juste devant Dieu. Il était un authentique croyant. Il a connu le Dieu de son oncle. Ce qu'on peut retenir de lui, la deuxième leçon, si vous voulez, c'est que dans ce monde mouvant, aux influences multiples, la responsabilité de choisir nos sources d'influence nous incombe. Choisir en sachant que ça va nous modeler quel livre nous allons lire, quel film nous allons regarder, qui nous allons écouter. Et sur ce chemin-là, apparaissent parfois des personnes qui prennent une place toute particulière. Tous les chrétiens, je crois, ont probablement en tête quelqu'un qui, à un moment donné, les a tenus par la main, comme Abraham a tenu son neveu par la main. Quelqu'un qui nous a aidés à avancer sur le chemin de la foi, à aller un peu plus loin, peut-être même plusieurs personnes à des moments différents de notre vie qui se sont succédées à des étapes différentes de notre relation avec Dieu. Et c'est bon qu'il en soit ainsi. Néanmoins, dans cette aventure-là, il ne faut pas non plus rater le coche de la dernière leçon apportée par Lot. Cette dernière leçon, c'est l'émancipation. Et ça, on va aller le lire dans un autre passage, un tout petit peu plus loin, en Genèse 13. Et je vais lire les versets 1 à 9. Genèse 13, versets 1 à 9. Abraham monta d'Égypte vers le Négev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négev jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où avait d'abord été sa tente, entre Bethel et le Haï, au lieu où il avait précédemment fait un autel. Là, Abraham invoqua le nom du Seigneur. Lot, qui accompagnait Abraham, avaient aussi du petit bétail et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays ne leur permettait plus d'habiter ensemble. Leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient plus habiter ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Périsites habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de querelle entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Nous sommes frères. » Tout le pays est devant toi. Sépare-toi de moi, je te prie. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. En résumé, il y a trop de troupeaux et il n'y a pas assez d'herbe. Voilà, on peut résumer ce passage comme ça, en 5 mots, 6 mots. Lot a prospéré. Alors, Abraham aussi, sans doute, a prospéré. Mais Lot aussi a prospéré auprès de son oncle, au point que maintenant, il se marche sur les pieds. Et je vois là deux interpellations pour l'Église. La première, c'est que si être accompagné quelque temps par un autre est un processus normal dans la croissance, et y compris dans la croissance spirituelle, ce processus doit se conclure à un moment ou à un autre par une émancipation. Le but, c'est pas que Lot reste à la botte de son oncle toute sa vie. Ce n'est pas qu'il soit à côté de lui toute sa vie. Lot aussi est appelé à grandir. À grandir, là, je dirais symboliquement, dans sa prospérité matérielle, mais aussi à grandir dans sa prospérité spirituelle. Et ce processus doit se conclure par une émancipation. Notamment parce qu'il y a une terre qui est à investir, la terre de Canaan. Donc le but, ce n'est pas de rester tout coincé dans son petit coin, chacun, c'est bien d'investir cette terre. Et il en est de même en ce qui nous concerne. Les disciples sont appelés à faire des disciples. Et donc, il y a un moment, et mieux vaut tôt que tard, où les personnes accompagnées doivent devenir des vis-à-vis et s'émanciper. et notamment parce que nous sommes appelés à faire de toutes les nations des disciples du Christ, pas du pasteur ou pas de je ne sais quel accompagnateur spirituel. Entre Dieu et les hommes, il n'y a pas d'autre intermédiaire que Jésus-Christ lui-même, et donc lorsque nous accompagnons quelqu'un, il faut bien être attentif à ne pas créer de relation de dépendance. Comme le dit Jean, il faut que Christ grandisse et que moi je diminue. Et plus vite c'est fait, mieux c'est en vrai. Et l'autre interpellation, elle est pour les accompagner, parce qu'eux doivent aspirer à grandir. Ils doivent aspirer à ça, ils doivent aspirer à s'émanciper. On a un petit coup de main sur un temps donné, mais un temps limité. On doit vouloir grandir. Et quand ils grandissent, il arrive un jour où ils commencent à toucher les limites de la croissance possible auprès de ceux qui les ont accompagnés. Et là, vous avez deux options qui se dessinent. On les voit parfois. La plainte ou la croissance. La querelle ou l'expansion du royaume. Il m'est arrivé à deux reprises dans mes années de ministère d'entendre quelqu'un me dire « Laurent, les prédications de l'Église ne me nourrissent pas. Je ne suis pas nourri à l'Église. » Alors évidemment, tout pasteur doit entendre cette remarque et se sentir particulièrement concerné. Évidemment, un berger qui ne nourrit pas les brebis qui lui ont été confiées, c'est assez ennuyeux. Mais ce qui me rassure un petit peu, et j'espère à pas trop bon compte, c'est que ces remarques me sont venues de bêtes grasses, pas de brebis faméliques. Elles me sont venues de l'hôte théologiquement florissant, prospère, qui avait bien grandi. Or, une bête grasse n'est plus dans la posture de l'affamé qui vient réclamer sa nourriture. Si je lis bien la parabole du fils prodigue, et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller la chercher sur Google, qui est votre ami. La bête grasse, elle est en passe d'être sacrifiée par le père sur l'autel pour nourrir le fils qui était perdu et qui est revenu. Autrement dit, la bête grasse, elle est appelée à servir. Elle est appelée à prendre sa part dans l'expansion du royaume de Dieu. Quand on est tellement repu que l'Église ne parvient plus à nous nourrir, ben c'est peut-être bien parce que c'est à notre tour de nous lever pour servir à table, pour nourrir les autres. Nous pouvons dire comme Abraham, écoute, nous sommes de la même famille, ne nous disputons pas, séparons-nous plutôt. C'est-à-dire, décuplons nos forces. Je ne parle pas de division, là, je parle de multiplication. Parce qu'en fait, la terre de Canaan est assez grande pour nous accueillir tous, et ce d'autant plus que nous avons à la conquérir. Alors voilà, bâtir sur le terrain ferme de la parole de Dieu plutôt que sur l'instabilité de nos fausses sécurités. Choisir nos sources d'influence pour qu'elles soient saines et saintes, pour qu'elles nous façonnent, pour qu'elles nous aident à grandir. Et finalement, nous émanciper de ceux qui nous ont tenus un temps par la main et prendre notre part dans l'extension du royaume. Et celui qui fait ça, celui qui finalement s'émancipe, vous savez ce qui lui arrive ? Eh bien, il se retrouve à nouveau nomade. Il se retrouve à nouveau nomade. Il doit partir sur une terre nouvelle, poussé par le Seigneur ou appelé par le Seigneur, peu importe. Voilà, le vent souffle comme il veut. Et c'est une belle expérience que cette marche avec le Seigneur qui est toujours renouvelée, toujours déstabilisante, toujours enivrante. Je vais prier. Seigneur, nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons tourner nos regards vers Jésus-Christ. Vers Jésus-Christ qui nous appelle, Jésus-Christ qui nous relève quand on est à terre et qui nous invite à marcher à nouveau. Jésus-Christ qui nous envoie vers ceux qui sont perdus pour leur annoncer la bonne nouvelle en parole et en acte. Seigneur, nous ne voulons pas être des bêtes grasses repues qui n'en peuvent plus tellement elles mangent et qui ne font aucun exercice. Seigneur, nous savons que si tu nous nourris, c'est pour nous envoyer. Seigneur, tes appels sont souvent déstabilisants, peuvent nous faire peur parce que nous avons conscience que si nous partons seuls, nous sommes perdus, que si nous partons seuls, c'est une folie. Alors Seigneur, vraiment que tes appels soient clairs, pressants, que le discernement de ton appel, Seigneur, puisse se faire aussi en Église, parce que tu nous as constitués en Église, tu as fait de nous un peuple. Mais si tu appelles, Seigneur, que nous ayons cette audace de te suivre là où tu nous demandes d'aller, même si nous ne voyons pas tout le bout du chemin, même si nous ne savons pas exactement tous les détails de comment les choses vont se passer, Seigneur, ce que nous savons, c'est que tu nous appelles et que tu ouvres la voie devant nous. Et quand toi, tu es devant, les portes s'ouvrent, les besoins sont comblés, et nous pouvons nous émerveiller de ça et te rendre gloire. Parce que nous savons, en voyant ça, que c'est bien toi que nous suivons, que nous ne nous sommes pas trompés, que nous ne nous sommes pas mentis à nous-mêmes, mais que c'est bien toi qui es là devant, qui a appelé, et tu nous as fermis dans notre foi. Seigneur, je te prie pour que tous ceux qui, ce matin, peut-être vivent dans la peur et s'accrochent à de fausses sécurités, eh bien, qu'ils puissent entendre ta voix, clairement. Seigneur, toi, tu es un Dieu qui parle. Je sais que tu parles à chacun, tu parles à tout le monde. Je sais aussi que parfois, on ne veut pas t'entendre, on ne veut pas t'écouter, parce qu'on a trop peur, peur de ce que tu vas nous demander, peur que ça nous déstabilise. Et c'est vrai, Seigneur, que c'est déstabilisant, mais c'est vrai aussi que c'est tellement exaltant, tellement beau, Seigneur, quand tu nous appelles et que nous faisons ce pas de foi et que nous nous libérons de nos chaînes, de la peur qui nous maintiennent captifs, alors que toi, tu nous appelles à une vie libre, à une vie aventureuse, à une vie exaltante, avec une mission, avec quelque chose à accomplir. Seigneur, je te prie pour que chacun puisse t'entendre. Nous sommes là à la faveur des vacances, nous avons l'esprit peut-être plus reposé, plus libre, moins préoccupé. Que ce soit un temps pour chacun où ta voix se fasse entendre encore plus clairement que d'habitude. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Je vais demander à l'équipe de louanges de